France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Joséphine Reynards, Barthélémy Gaillard, Sacha Mattei et Antoinette Benoît, réalisé par Cassandre Puel et Vivian Lecuivre. À la technique ce matin, c'est François Saint-Jour. Un président états-unien climato-sceptique, des COP décevantes, le pacte vert européen revu à la baisse, des militants écologistes attaqués. Comment la transition continue malgré tout? Dans quel nouveau rapport de force? Nous parlerons demain des élus états-uniens qui entrent en résistance, mercredi de la Chine qui déploie les renouvelables à grande échelle, jeudi des états insulaires qui font bouger la justice climatique. Aujourd'hui, comment la diplomatie du climat avance encore malgré tout en amont de la prochaine COP qui aura lieu au Brésil et dont le président Lula attend beaucoup.
J'ai déjà participé à la COP en Égypte, à Paris, à Copenhague. Et tout le monde parlait d'Amazonie. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas faire une conférence en Amazonie pour que tout le monde connaisse l'Amazonie?
We are faced with one of the biggest challenges of all times.
Nous sommes confrontés à l'un des plus grands défis de tous les temps qui déterminera notre existence. La seule chose qui nous permettra d'y faire face et de prendre des mesures pour relever ce défi est la collaboration et la confiance mutuelle.
N'oublions pas que la COP 30 doit être un tournant. Nous avons débattu, nous avons discuté, nous avons négocié. Il est maintenant temps de passer à la mise en œuvre. L'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré est plus urgent que jamais.
Plus urgent que jamais, car la politique mondiale du climat conditionne ni plus ni moins la survie de toutes les espèces, y compris humaines. C'est au cœur de l'Amazonie, dans la ville brésilienne de Belém, que se tiendra cette année la COP 30 pour le climat, en novembre. 10 ans après la signature de l'accord de Paris, l'heure est à la mise en œuvre des promesses faites en 2015 lorsque les États signataires s'engageaient collectivement à maintenir le réchauffement climatique de la planète en deçà de 2 degrés supplémentaires par rapport à l'ère pré-industrielle. L'effort à fournir est clair, divisé par 2 les émissions de gaz à effet de serre et il nous reste 5 ans pour le faire. L'écologie politique est-elle capable de prendre les mesures qui s'imposent? Elle dont l'exploit jusque-là, disait le sociologue Bruno Latour, peu de temps avant sa mort en 2022, est plutôt de faire à la fois paniquer les esprits et de les faire bâiller d'ennui. Pour fixer une trajectoire de sortie des énergies fossiles, il faut peut-être des chiffres, des rapports, des généralités, mais il faut surtout une volonté implacable. Or, le contexte politique est pour le moins défavorable entre le retrait états-unien de l'accord de Paris, la montée partout dans le monde des extrêmes droites climato-sceptiques et un fossé qui se creuse entre des pays riches et des pays en développement qui demandent une aide financière. Que reste-t-il de la diplomatie climatique? Comment dépasser une forme de pantalonnade institutionnelle qui donne l'illusion que l'on s'occupe vraiment du climat? Bonjour Lola Vallejo. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice de l'équipe diplomatie à la Fondation européenne pour le climat. Bonjour Ami Dahan.
Bonjour.
Bienvenue à vous, mathématicienne, directrice de recherche émérite au CNRS. Vous êtes historienne des sciences, spécialisée dans l'interaction entre sciences et politiques au sujet du climat. Vous avez à ce sujet coécrit « Gouverner le climat », c'est une question que vous posez, 20 ans de négociations internationales avec Stéphane Écoute, paru aux presses de Sciences Po. Alors Ami Dahan, on est maintenant à 5 mois de la COP de Belém au Brésil. En ce moment même, comment s'affairent celles et ceux qui seront à cette 30e COP pour le climat? Quelles allers-retours, coups de fil, travaux de rédaction et d'évaluation, pouvez-vous nous relater pour qu'on s'assure que la diplomatie du climat a encore un peu d'énergie à revendre?
De l'énergie et de l'agitation, ça, il y en a toujours eu. Il faut quand même ça, le dire. Et aujourd'hui, il y a eu un appel, vous savez, du président Lula du Brésil qui a décidé justement du lieu de cette COP à Belém, en conjointement avec le président de l'Afrique du Sud et aussi en Espagne, qui donnait un échéancier pour cette année 2025 où ont lieu trois conférences importantes, donc une le G20 en Afrique du Sud, une conférence qui était sur les questions de financement et la question en Espagne et la question du Brésil. Donc c'est sûr qu'on a cette volonté du président brésilien de faire avancer les choses, ça c'est sûr, mais vous avez vous-même résumer la situation géopolitique internationale, le retrait des États-Unis, etc. Et la façon dont ce processus est construit depuis quand même longtemps, et en particulier depuis l'accord de Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? L'accord de Paris, c'était quand même peut-être ce qu'il y avait de mieux dans le monde dans lequel on est, mais au fond, on a quand même perdu beaucoup de temps. Les cinq premières années entre 2015 et 2021, après le Covid, ben, il ne s'est pas passé grand-chose. On a dit les entreprises vont le faire, on passait la main des États vers les entreprises et les marchés carbone. Mais on sait très bien que les entreprises seules ne sont pas suffisamment motivées et y a peu, voilà. Et les États ont un peu lâché la bride.
Les États ont lâché la bride et il y a eu cette philosophie selon laquelle on a plutôt proposé aux industriels des contrats avec les États plutôt que de leur imposer des contraintes et rendu aussi la transition rémunératrice pour le capital. Ce sont les grandes critiques formulées notamment à l'encontre des COP. Il y en a d'autres, on va avoir le temps d'y revenir. Lola Vallejo, il se trouve que, je disais tout à l'heure, vous êtes directrice de l'équipe diplomatie à la Fondation Européenne pour le Climat, ça c'est depuis le mois de décembre dernier, mais vous êtes aussi l'ancienne conseillère spéciale climat au sein de l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Donc vous avez pour ce faire beaucoup préparé des réunions sur le climat, participé à leur préparation, mais aussi participé à ces réunions tout court. Et en amont des COP, il y a beaucoup d'autres sommets. Alors là, en l'occurrence, la réunion intermédiaire à Bonn ce mois-ci, des réunions ministérielles comme le dialogue de Petersberg qui s'est tenu en mars à Berlin. On dit d'ailleurs à ce sujet que le président de la COP de Belém, qui était présent à Petersberg, n'a pas voulu abattre d'emblée ses cartes. Est-ce que ça veut dire que la diplomatie du climat exige les mêmes ruses que la diplomatie tout court? Il faut être un peu madré quand on est diplomate du climat?
Bien sûr, la diplomatie climatique, c'est une diplomatie comme une autre. D'où l'intérêt d'avoir une succession d'événements à haut niveau tout au fil de l'année pour préparer le point d'orgue que sont les COP, où on a le plus de pression politique, le plus de pression médiatique aussi, parce que c'est devenu des vrais moments de catalyse, en fait, pour essayer d'avoir des résultats, des avancées. Mais évidemment, le plus important, c'est aussi ce qui se prépare tout au long de l'année. Et je dirais que outre même ces réunions ministérielles qu'on peut suivre en Allemagne, au Danemark, à nouveau à Bonn pour les réunions de mi-parcours, c'est aussi tous les échanges informels qu'il y a entre États. Surtout maintenant que les États-Unis sont sortis pour la deuxième fois de l'accord de Paris, parce qu'il y a une sorte de vraie frénésie quelque part à montrer que l'ensemble des pays sont toujours engagés dans l'accord de Paris. Et la plus importante chose à mettre sur la table pour rassurer la communauté internationale, c'est les contributions, c'est-à-dire les nouveaux engagements que les États doivent mettre sur la table d'ici la fin de l'année.
Ça, on va en parler, mais avant cette COP qui se tiendra en novembre à Belém, il y a beaucoup plus proche de nous en termes de date et beaucoup plus proche de nous tout court géographiquement, c'est le sommet des océans qui s'ouvrira lundi prochain à Nice. Pourquoi une spécialisation comme ça par thématique? Les ONG aujourd'hui fonctionnent aussi comme ça, un plaidoyer spécialisé par thématique. C'est assez dommage en fait de se dire qu'on ne prenne pas en compte le climat, l'océan c'est aussi le climat d'une certaine manière. Pourquoi ces événements disparates?
Alors, en fait, le système onusien traite les thèmes suivant des communautés qui ont sens et qui fédèrent des acteurs spécialisés. Donc, en 92, au sommet de la Terre, on a bien eu une convention sur le climat, une convention sur la biodiversité, une convention sur la lutte contre la désertification. On a par ailleurs cette grande conférence qui n'a lieu que tous les 5 ans sur l'océan. Et en fait, toutes les conférences que j'ai citées, et il y en a encore d'autres, elles ont trait avec la question climatique. L'océan, par exemple, capte 90% du CO2 qui est émis et joue un rôle majeur de stabilisation dans l'atmosphère. Néanmoins, je pense qu'on arrive, on a souvent ce débat de manière récurrente. Est-ce qu'il faudrait fusionner? Est-ce qu'il faudrait... Je pense que il faut bien voir que on arrive à faire avancer un sujet que s'il a un centre de gravité, un point d'ancrage. Et donc, c'est bien d'avoir ces processus, mais de réfléchir aussi à leurs interactions.
Ami Dahan, est-ce que vous êtes d'accord aussi avec ça? C'est-à-dire, certains disent qu'il faudrait fusionner, d'autres, au contraire, qu'il faut prendre les choses les unes après les autres. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je crois que, quelque chose qui a caractérisé la construction de la négociation climatique jusqu'en 2015, et ensuite ça a été justement ce divorce avec la réalité qu'on a appelé un schisme de réalité. Le monde était en train d'exploser dans la croissance des émergents, dans les nouvelles les émissions, etc. Et en même temps, on parlait de façon très lente, etc., dans la négociation. Après l'accord de Paris, un autre schisme est intervenu. On s'est mis à parler seulement de décarbonation qu'allaient faire les entreprises, le marché du carbone, etc. Et on a un peu oublié, effectivement, qu'il s'agit d'une crise écologique majeure qui met en relation des tas de questions de biodiversité, des océans, de la façon dont les questions agricoles vont être traitées. On le sait bien. Et ça, aujourd'hui, c'est très important, effectivement, de montrer qu'il y a une impasse de nos façons aussi de produire. Parce que quand pendant 3 ans, on a donné la main de ce processus de négociation aux pays fossiles, parce que c'est bien ce qui s'est passé à Sharm el-Sheikh, Dubaï et en Azerbaïdjan, on voit bien que maintenant, on a besoin vraiment de montrer qu'il n'y a pas... C'est pas comme ça qu'on va pouvoir sensibiliser les questions.
Donc, on entend déjà un aperçu, un échantillon des débats qu'il y aura lors de cette prochaine COP 30, pour laquelle les États, tous ceux qui sont censés le faire, tous ceux qui s'y sont engagés, sont en train de plancher sur leur feuille de route, ce qu'on appelle très officiellement contribution déterminée au niveau national pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Pour l'instant, Lola Vallejo, seuls ont rendu, parce qu'on dit que la COP de Belém, c'est la date butoir pour rendre l'affiche. En fait, c'était en février. Bon, on avance toujours un peu la date butoir pour laisser un petit peu plus de temps à ceux qui ne l'ont pas encore rendu, les Émirats arabes unis, la Nouvelle-Zélande, la Suisse, Andorre, l'Équateur, l'Uruguay, Sainte-Lucie dans les Caraïbes, mais aussi les États-Unis, parce que l'équipe qui était en place sous Joe Biden avait plutôt bien avancé dans son travail. Ça, ce sont les États qui ont déjà rendu leur feuille de route. Est-ce que pour autant, est-ce que c'est parce qu'ils l'ont déjà remise que ce sont de bons élèves, ou est-ce qu'on sait déjà si certains l'ont bâclé et que ça n'est pas satisfaisant?
Alors, il y a des analyses détaillées qui existent pour chacun. Je pense que le Royaume-Uni, par exemple, qui s'est engagé à un objectif de 88% d'ici 2035, fait figure de bons élèves. Le Brésil, par exemple, a un peu plus ouvert le parapluie, si j'ose dire, en donnant une sorte de... une fourchette de ce que pourraient être ces réductions. Donc, on n'a pas encore pris de décision finale. Je pense que ce qui est aussi intéressant de regarder, c'est au-delà du chiffre qu'on a tout en haut et qui tend à concentrer l'essentiel de l'attention, c'est de regarder... quel degré d'appropriation réelle il y a sur ces engagements? Dans quelle mesure ça s'intègre dans des outils de politique liés à des secteurs qui parlent à des ministères des finances, de l'agriculture, de l'industrie? Et dans quelle mesure ces chiffres vont vraiment être suivis d'effet au niveau national? Parce que c'est bien là que se font les changements.
Ami Dahan, ces documents-là, ces contributions déterminées au niveau national, est-ce que ce sont des documents très techniques, rédigés comme s'il s'agissait d'une punition, en tout cas d'une obligation, ou est-ce qu'on y trouve un certain élan, cette conviction de participer, en tout cas à un élan commun?
La conviction de participer à un élan commun, je ne crois pas que ce soit absolument communément partagé. Hein. Il me semble que quand on a vu en 2015 la façon dont certains NDC étaient rédigés, on peut être sceptique. Bien sûr, certaines choses ont progressé. Mais aujourd'hui, on sait bien que même l'Europe est en train d'abandonner, enfin de reculer, et c'est une bataille qui est loin d'être gagnée, y compris dans notre pays, en France, on le voit bien dans les décisions récentes qui viennent d'avoir lieu à différentes occasions. Donc ça, c'est très important. Et puis aussi, si on regarde les pays qui ont déjà donné leur NDC, comme par exemple les Émirats Arabes Unis ou des pays pétroliers qui se veulent bons élèves de la négociation. En fait, l'idée, par exemple, pour les pays du Golfe, les monarchies du Golfe, c'est d'apparaître dans la diplomatie climatique comme de meilleurs élèves, etc., en baissant localement leurs émissions. Mais pourquoi ? Pour garder toute leur production pétrolière dans l'exportation. C'est exactement la stratégie des monarchies du Golfe. Et donc, ce que vous disiez au début, à savoir que 1,5 degré, etc., 1,5 degré, il faut dire clairement que ce n'est plus possible. Sinon, on continue à raconter des discours en l'air qui n'ont aucune réalité.
La COP que nous allons organiser au Brésil, nous voulons la faire possiblement de la même manière que nous avons tenté de faire le meilleur G20, de la même manière que nous allons faire le meilleur BRICS, nous allons faire la meilleure COP. Nous ne voulons pas d'une COP qui soit un festival de personnes allant ici et là, comme si c'était un centre commercial de produits climatiques, de produits environnementaux, où tout le monde achète ce qu'il veut, vend ce qu'il veut, sans que personne n'ait de responsabilité. Ce que nous voulons, c'est faire une COP avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de discussions, et beaucoup de sérénité afin que nous puissions tirer de la COP30 des décisions qui puissent être respectées et que la société puisse avoir confiance dans le fait que les gouvernants de la planète prennent au sérieux la nécessité de prendre des engagements pour que la planète ne se réchauffe pas de plus d'un degré et demi.
Le président brésilien Lula qui affiche son ambition pour cette future COP30, un grand centre commercial de produits climatiques, ce serait donc ça les COP jusqu'à présent. Amidaan, il se trouve que lors de la COP28 par exemple il y a 2 ans, 2456 lobbyistes des énergies fossiles avaient été accrédités. Dès lors, c'est vrai, qu'est-ce qui peut distinguer la COP d'une foire commerciale? Et est-ce que la COP a vocation à attaquer, à contraindre les lobbies pétroliers ou l'extractivisme ou les climato-sceptiques ou toutes les forces qui font en sorte d'amenuiser les objectifs climatiques, ou une vocation surtout défensive?
Je pense en tout cas qu'elle n'a pas une vocation de mettre en scène tous ces lobbyistes tels que ça s'est passé à Dubaï et tel que ça s'était passé dans d'autres COP précédentes. Certaines COP qui avaient eu lieu en Pologne avant même l'accord de Paris ou à Katowice mettaient aussi beaucoup l'accent sur le charbon, etc., et qui était à la porte de la foire de la COP. Donc ça a toujours existé, cette chose-là. Mais vraiment, les dernières années, ça avait pris une ampleur incroyable qui a choqué vraiment les pays d'Amérique latine. Parce que je pense que c'est pas un hasard si Lula et le président de la COP de Belém s'est exprimé tel que vous l'avez donné. C'est-à-dire, on a vu les délégations colombiennes, etc., à Dubaï, être vraiment ulcérées de la façon dont ça se passait.
Même si le Brésil n'en a pas fini pour l'instant avec la production et l'exportation de pétrole, en le justifiant d'ailleurs, on aura le temps d'y venir. Lola Vallejo, quel rôle, en l'occurrence, a l'Europe? Il se trouve que donc vous travaillez pour la Fondation européenne pour le climat. D'abord, quel est précisément le rôle de la Fondation européenne pour le climat et pourquoi dit-on, et ça vraiment on le lit régulièrement, y compris de la bouche des officiels brésiliens qui organisent cette COP à Belém, c'est de dire que l'Europe, et en quelque sorte, donne le là de la politique climatique, que si l'Europe ne se montre pas un petit peu la plus exigeante possible, eh bien on ne suivra pas. Pourquoi cette conviction-là?
Alors, je vais relier cette question avec celle d'avant. C'est vrai que Amy parlait tout à l'heure du rôle des entreprises, mais il faut bien voir que la majorité des réserves fossiles, elles sont aux mains d'États. Donc les pays, ils sont vraiment aux manettes de cette transition. Et ça, on l'a vu à plein, la COP28 à Dubaï, elle était présidée par une personne qui avait un rôle majeur dans la compagnie pétrolière nationale et qui était aussi le président de la COP. L'Europe regarde ça, elle n'a pas de réserve hydrocarbures à hauteur de beaucoup des États-Unis, qui sont le premier producteur pétrole et gaz aujourd'hui, du Golfe, dont on parle beaucoup. Donc l'Europe, elle a un enjeu on va dire, de compétitivité et de prospérité future, de s'engager dans cette transition. C'est aussi un enjeu de souveraineté dont on parle beaucoup, on parle du contexte géopolitique difficile. Je pense que la guerre en Ukraine a aussi montré l'intérêt qu'il y avait à avoir un prisme de sécurité énergétique et de pas juste présenter la transition comme un enjeu moral, un enjeu climatique. Et dans ce cadre-là, l'Europe, elle a un rôle majeur aujourd'hui parce que les États-Unis ayant encore quitté l'accord de Paris, l'Europe, c'est en quelque sorte le chef de file de facto des pays développés en termes de poids, de responsabilité historique, de moyens de mise en œuvre. L'Europe, elle a un rôle vraiment majeur pour rassurer la communauté internationale. Donc l'Europe, elle est attendue sur sa contribution propre, dans quelle mesure elle va donner de nouveaux engagements à 2035 et crédibiliser ses engagements par ses politiques domestiques, et dans quelle mesure elle va réussir aussi à établir un pont vers la Chine en particulier, qui est un autre bloc absolument majeur pour la stabilisation, on va dire, de ces négociations climatiques, mais surtout pour la mise en œuvre des objectifs qui ont été pris à Dubaï, par exemple, de tripler les capacités de renouvelables au niveau mondial, de doubler le rythme d'efficacité énergétique et de transitionner vers l'abandon des fossiles.
Alors que les États-Unis, eux, n'y seront pas. En tout cas, on ne sait pas vraiment s'il y aura ou pas une délégation états-unienne à Belém, parce que jusqu'à présent, même sous le premier mandat de Donald Trump, et quand bien même il s'était retiré de l'accord de Paris une première fois, des Américains étaient quand même là à chaque fois qui venaient participer aux discussions. Donc, est-ce qu'il y aura ou pas une délégation états-unienne à Belém ? On ne le sait pas. Néanmoins, Lola Vallejo, est-ce qu'on commence à se dire, du côté de ceux qui, de toute façon, ils seront pour sûr, bon, mais finalement, qu'ils ne viennent pas, on fera sans eux et c'est peut-être mieux comme ça.
C'est sûr que les États-Unis pourraient jouer un rôle délétère dans les négociations. On voit le rôle très actif que joue, par exemple, l'Arabie Saoudite dans les négociations pour semer le doute ou jeter le discrédit sur des consensus scientifiques ou sur la façon de faire cette transition énergétique. Et ça, c'est une stratégie délibérée qu'on retrouve dans beaucoup d'enceintes. On parlait tout à l'heure, est-ce qu'on doit parler de biodiversité, de pollution et de climat ensemble ou séparément ? On a aussi une nouvelle négociation sur les plastiques. C'est bel et bien la même question. Les plastiques, c'est quoi ? C'est lié à l'industrie du pétrole. Et donc, tous on va dire la dramaturgie qu'on voit dans les négociations climatiques, elle se rejoue aussi autour de cette négociation du plastique.
En l'occurrence, pour cette COP30, d'ores et déjà le Brésil qui est en train de préparer, même si on est encore à quelques mois de l'événement, préparer cette COP30, a nommé un ambassadeur, André Correa do Lago, comme président de la prochaine COP. C'est la première fois depuis quelques années que celui qui présidera la COP n'est pas lié de près ou de loin au secteur des énergies fossiles. Il a été le négociateur du Brésil pour les COP 28 et 29. Il s'appelle André Correa do Lago.
Il y a un grand espoir dans le monde concernant cette présidence brésilienne. Le président Lula est vu comme l'un des rares chefs d'État ayant l'indépendance et la crédibilité nécessaires pour unir le monde en cette période de crise du multilatéralisme. Beaucoup de gens pensent aujourd'hui que les résultats des Nations Unies ne sont pas si satisfaisants que ça et que nous devrions favoriser des formats bilatéraux. Mais nous savons que ce n'est pas le cas. Pour le monde en développement, c'est principalement le multilatéralisme, travailler tous ensemble, discuter tous ensemble, qui permet d'obtenir des résultats légitimes à partir d'un accord entre tous les pays. Car à la COP, toutes les décisions doivent être approuvées par tous les pays. Dans ce processus, j'espère que le Brésil pourra franchir une nouvelle étape et donnera une nouvelle impulsion au multilatéralisme.
On sait combien le Brésil du président Lula est attaché au multilatéralisme tout court dans ses relations avec le reste du monde. On en parlait d'ailleurs dans Culture Monde dans l'épisode de jeudi dernier. Là, on entend bien le futur président de la COP 30 être attaché à une sorte de multilatéralisme climatique. Lola Vallejo, le fait que le Brésil préside la COP, l'année où il accueille d'ailleurs aussi en juillet le sommet des BRICS, est-ce que ça peut laisser croire qu'il contribuera à convaincre les autres pays des BRICS, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, mais aussi tous les pays qui les ont rejoints ces derniers temps, y compris l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, les convaincre que dans ce domaine-là, les pays des Sud, au pluriel, doivent et peuvent peser.
C'est effectivement tout l'enjeu. Je pense que c'est important que cette présidence brésilienne, elle soit une présidence de COP et pas juste une présidence des BRICS, ou plutôt qu'elle mette à profit cette double casquette. Parce qu'effectivement, les BRICS, c'est un groupe qui souhaite peser de plus en plus en termes géopolitiques. Et la conduite que va avoir le Brésil va être extrêmement importante. Je pense que c'est aussi intéressant de voir qu'ils essayent de mettre beaucoup d'innovations sur la table pour créer une mobilisation d'ensemble en nommant par exemple des envoyés régionaux, des envoyés sectoriels, en créant le cercle des présidences passées pour réfléchir à comment améliorer ce système dans son ensemble. Donc le Brésil, il a un rôle absolument majeur à jouer. Mais je pense que la figure même de Lula, elle est importante parce que c'est un président qui s'est beaucoup engagé personnellement contre la lutte contre les inégalités sociales. Et ça, c'est un thème qui est très porteur, qu'on soit issu d'un pays en développement ou développé, et qui est vraiment une ligne de fracture majeure dans les COP elles-mêmes. Donc, apporter cette légitimité-là à ce moment-là des négociations climatiques, ça peut être très puissant.
Politiser aussi l'écologie politique, c'est peut-être ce qui, selon certains, manque, en tout cas depuis quelques années, dans les COP. Amidan, à ce sujet, est-ce qu'on peut imaginer que le Brésil encourage, par exemple, la Chine à revoir ses ambitions et objectifs à la hausse? La Chine qui est aujourd'hui le premier émetteur de gaz à effet de serre mondial, même si, on en parlera mercredi, elle a annoncé il y a 2 semaines une baisse de ses émissions de CO2, alors même que la demande a augmenté. Donc ça veut dire que les énergies renouvelables ont pu répondre à cette demande. Quelle est l'occasion à la fois pour le Brésil et la Chine d'apparaître comme des puissances qui pèsent pour le climat?
Il est certain que c'est un moment très important de confrontation internationale. Moi, ce que je voudrais dire sur juste la discussion précédente sur l'Europe et le Sud, c'est que c'est un des points sur lequel l'Europe a un petit peu manqué, alors qu'elle était le groupe de pays le plus avancé dans la question climatique, la bonne élève du processus, elle a porté l'accord de Paris, etc. On ne peut pas dire que dans les années qui ont suivi, elle ait bien exploité tout ce capital et dans ses relations avec le Sud. Et pas seulement le Sud global, avec les BRICS, mais vraiment avec les pays les plus pauvres, la multiplicité des pays d'Afrique, par exemple, où il y a tout un contentieux lié, bien sûr, au colonialisme, mais qu'il n'y a pas eu une stratégie pour le dépasser, pour avancer là-dedans. Et finalement, qui aujourd'hui, dans la diplomatie climatique, a vraiment marqué des points vis-à-vis des pays d'Afrique, y compris les moins développés? C'est d'un côté la Chine, de l'autre côté les pays des monarchies du Golfe qui ont énormément d'investissements et de commerce avec en particulier l'Afrique de l'Est, mais de façon générale toute l'Afrique. Et l'Europe a été un peu marginalisée là-dedans. Et donc, il faut qu'elle se saisisse de cette occasion et des relations possibles via la présidence brésilienne pour réétablir un lien avec ces pays d'Afrique. Et en particulier, je pense que la question financière, la façon dont la négociation financière occupe le terrain et le monopolise dans les COP depuis pas mal d'années, en particulier les dernières années, c'est-à-dire et les pays du Golfe, enfin les pays fossiles des monarchies qui ont mis cette question en avant, tant à Sharm el-Sheikh qu'à Durban. Alors c'est pas mauvais en soi, mais ça a pris ça a occulté complètement les autres questions. On ne fait que discuter le montant que vont donner les pays développés, etc. Alors qu'on sait très bien que les questions de décarbonation sont très importantes et qu'aujourd'hui, le lien, la fracture, elle n'est pas simplement entre pays historiquement développés et pays historiquement non développés ou en développement, mais aussi elle passe à l'intérieur des pays. Il y a des classes, les travaux de Lucas Chancel, Piketty et bien d'autres montrent aujourd'hui que ce sont les riches de tous les pays qui émettent et qui polluent et qui développent le carbone au détriment des classes pauvres et moyennes de tous les pays.
Notamment donc, ceux qui ont les moyens, par exemple, de prendre régulièrement l'avion et qui ne s'en privent pas, par exemple. Lola Vallejo, à ce sujet-là, est-ce que ce qu'on appelle la fracture nord-sud a encore un sens lors de ces grandes réunions sur le climat, précisément? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, il est question d'élargir le nombre de pays bailleurs quand, l'année dernière, les États se sont engagés à mobiliser 300 milliards de dollars par an d'ici 2035 pour aider les pays en développement à lutter contre les effets du changement climatique? Est-ce que ont été identifiés comme les seuls bailleurs possibles les pays qu'on appelle du Nord?
Alors, honnêtement, ça fait partie des ambiguïtés qui font le charme de ces COP. C'est-à-dire que oui, il y a évidemment des attentes qui sont plus élevées sur les pays historiquement contributeurs, les pays membres de l'OCDE. Mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, même cette définition de nord global et sud global, quand on regarde les questions climatiques, en fait, il y a beaucoup plus de nuances à y apporter. On a des pays qui sont souvent chefs de file du groupe des pays en développement du G77, comme Singapour ou, encore une fois, des pays du Golfe, qui ont des empreintes carbone par habitant bien supérieures à des pays dits du nord global. Donc, évidemment, la question se pose de dans quelle mesure ces pays-là vont contribuer, voudraient contribuer. On a déjà vu les Émirats Arabes Unis qui ont joué un rôle majeur dans l'établissement d'un fonds pour ce qui s'appelle les pertes et dommages, les pertes et préjudices, c'est-à-dire les effets inévitables, entre guillemets, du changement climatique. Et ils ont fait une contribution majeure à hauteur de celle de l'Allemagne. Donc, finalement, c'est cette sorte de Rubicon a déjà un peu été franchi. La Chine tient beaucoup à son statut de pays en voie de développement pour des raisons politiques, mais de fait, la Chine met elle-même aussi en avant le fait qu'elle est un gros contributeur de ce qu'elle appelle la coopération Sud-Sud. Donc en fait, l'étiquette a un intérêt, dans quelle case on rentre, mais finalement, quand on regarde de près, le tableau est quand même beaucoup plus compliqué. Il reste quand même qu'il faut dire que l'Europe reste un des contributeurs les plus importants.
Et reste aussi une colère qui a été formulée encore l'année dernière, par exemple par celle qui représentait le Nigeria lors de la dernière COP, Nkiruka Madouekwe, qui disait que ces 300 milliards de dollars par an d'ici 2035, ça n'était pas suffisant pour aider les pays en développement.
If we walk back home with 300 and we say that the developed countries are taking the lead.
Si nous rentrons chez nous avec 300 milliards de dollars en disant que les pays développés prennent les devants, c'est une insulte à ce que dit la Convention. Dois-je vous rappeler ce que dit la Convention? Il est dit que les pays développés doivent prendre les devants. Et cette avance concerne le financement. Alors que les pays en développement prétendent prendre les devants avec 300 milliards de dollars d'ici 2035, est une blague. Et ce n'est pas quelque chose que nous devons prendre à la légère. Je ne pense pas que ce soit quelque chose que nous devrions applaudir et nous forcer à accepter. Vous attendez de nous que nos contributions soient ambitieuses pour réduire les émissions. L'objectif sur le financement climatique était censé nous permettre d'avoir des cibles financières réalistes. 300 milliards de dollars, c'est irréaliste.
Ami Dahan, je crois que vous étiez l'année dernière à cette COP. En tout cas, il me le semble. Comment avait été reçu ce discours de Nkiruka Madouekwe et d'autres discours peut-être qui allaient dans le même sens?
Non, je n'étais pas en Azerbaïdjan, mais j'ai suivi en ligne cette COP. Bien sûr qu'il est reçu par les pays en développement comme quelque chose qui porte leurs aspirations, etc. Mais c'est vrai aussi que ces 300 milliards, eu égard aux dommages que ces pays subissent, etc., c'est pas grand-chose. Quand on sait que l'Allemagne a mobilisé pour les inondations qu'elle a subies il y a 2-3 ans, eh bien, plus de 30 milliards elle-même seule pour les reconstructions, etc. Donc, on voit bien que 300 milliards pour le monde entier, ce n'est pas suffisant. Mais en même temps, en prenant tout le temps cette focalisation, on sait très bien que les pays qui avancent en particulier ces exigences, et ça a été vrai à la COP28 de Dubaï, eh bien, ça empêche de discuter d'autres questions. Parce que les stratégies d'obstruction de la négociation, c'est aussi ça, polar polariser tout le temps disponible sur combien, etc. Et qui... Alors, en même temps, les pays en développement, on voit bien qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment leur stratégie de décarbonation concrète, pour la plupart d'entre eux, s'opère, sous l'égide de qui, comment elle se fait, etc. Et très souvent, les pays, y compris du Nord, certains, on a vu, déploient des énormes investissements pétroliers au Nigeria ou partout, et empêchent un développement décarboné, ou en tout cas ne le favorisent pas.
Est-ce qu'on parle encore, Lola Vallejo, de transition hors énergie fossile pour celui qui avait présidé la COP28 à Dubaï il y a 2 ans, le sultan Al-Jaber, par ailleurs PDG du groupe pétrolier Abu Dhabi National Oil Company? Lui, il avait dit, c'est une affaire entendue, on s'est engagé sur une transition hors énergie fossile, et on a l'impression qu'on n'en entend plus tellement parler. Une transition hors énergie fossile, ça veut dire une transition où il n'y a plus du tout d'extraction d'énergie fossile. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Alors ça, c'est une question complexe. Ça montre bien aussi à quel point la formule permettait des interprétations différentes. À peine 3 semaines après ce compromis politique, l'Arabie Saoudite a fait un communiqué pour dire c'est un menu d'options qui a été présenté à la COP. La transition vers l'abandon n'est qu'une des options. Il y a aussi beaucoup de solutions technologiques qui vont nous permettre de continuer à extraire du pétrole, notamment la capture et le stockage de carbone, cette idée qu'on va avoir une sorte d'aspirateur à CO2 et réinjecter tout ça dans une faille géologique. On sait bien que ces capacités sont limitées, mais ça montre bien toute la stratégie de doute qu'il y a sur les capacités technologiques, les coûts réels et le succès de déploiement de ces technologies jusqu'ici. L'Agence internationale de l'énergie est très claire. Pour l'instant, ces technologies ont beaucoup promis, mais très peu délivré. La priorité, c'est bel et bien de réduire l'extraction. Depuis 2021, cette même agence dit aussi qu'on n'a plus besoin de faire de nouvelles extractions de pétrole et de gaz pour tenir l'objectif 1.5, et on pourrait quand même tenir des objectifs d'électrification universelle et finalement de développement pour tous les pays qui en ont encore besoin. Et je pense que c'est ça qui est très difficile, c'est que le débat hors des fossiles, en fait, il a besoin d'être vraiment mis en contexte suivant les différents types de pays qu'on regarde. Il y a tous les pays les moins avancés dont Ami parlait. Eux ont besoin de construire des infrastructures. La question, c'est est-ce qu'ils vont être hors des chemins de financement, ce qui est le cas aujourd'hui, de tous ces investissements propres. Aujourd'hui, on investit plus de 2 fois plus dans les technologies propres énergétiques que dans les fossiles. Il y a 5 ans, c'était 1 pour 1. Donc, on fait des progrès. Mais 90% de ces investissements, c'est dans les économies avancées et en Chine. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour faciliter ces investissements dans des pays qui sont hors de ce circuit? Je pense que c'est ça, en fait, qui devrait être au cœur de cette COP de Belém. Et c'est ça le défi posé par la mise en œuvre. C'est un terme un peu valise.
Ami Dahan, pour l'instant, on a l'impression depuis quelques années qu'il est davantage question de valoriser les bonnes pratiques, comme tous les labels haute valeur environnementale en France ou autres, plutôt que d'interdire les mauvaises. Est-ce que l'un des enjeux de cette COP30 à Belém, ce sera de mettre en place des sanctions pour les États, mais aussi pour les entreprises qui ne respectent pas les objectifs qu'ils se sont eux-mêmes fixés?
Ça devrait l'être, mais je dois reconnaître que je suis un petit peu perplexe sur les perspectives d'une telle avancée, parce que jusqu'à aujourd'hui, les entreprises fossiles, que ce soit d'ailleurs Total Energy chez nous, des ExxonMobil ou bien Aramco dans les monarchies du Golfe ou en Arabie Saoudite, toutes ces entreprises considèrent que il y a encore beaucoup de pays qui ont besoin d'augmenter leur consommation de barils de pétrole. Ils consomment 1,2 barils par an et par personne, alors que aux États-Unis, par exemple, ça sera entre 10 et 15, etc. Et donc, il y a encore un grand avenir pour l'extraction des fossiles.
Même si on dit aujourd'hui, les grandes entreprises de l'extractivisme disent, pour certaines, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, qu'elles allaient se diriger vers activisme urbain, c'est-à-dire aller chercher l'aluminium dans les maisons qu'on détruit, etc. Alors je ne sais pas si elles essaieront de mettre ça en avant lors de la prochaine COP en disant qu'elles participent aussi à la transition climatique. En tout cas, il y a toujours cet enjeu dont on parle tout à l'heure, de ne pas faire en sorte que seul le capital soit récompensé pour la transition énergétique. Vous vouliez dire quelque chose, Lola Vallejo ?
Rapidement sur cette question de sanctions, une des choses qui est vraiment à la base de tout ce multilatéralisme, c'est évidemment reconnaître le droit souverain des pays à utiliser leurs ressources. Donc on ne peut pas dire, et ça fait sens aussi, même d'un point de vue moral, finalement, si le Sénégal découvre des ressources gazières, qu'est-ce qui les empêche de les extraire et d'utiliser, en tout cas c'est vraiment ça qui est beaucoup défendu, de l'extraire et de le vendre pour avoir des devises pour son propre développement, quand on voit que des pays comme les États-Unis ou d'autres, voilà, encore une fois l'Arabie Saoudite pour ne citer qu'eux, ont beaucoup profité de cette rente. La question c'est de leur montrer qu'il y a un chemin de transition qui va faire que leur gaz, leur pétrole, ne va pas être forcément compétitif, mais aussi de leur donner d'autres moyens de se développer.
Et c'est d'ailleurs pour ça que le Brésil dit que chaque pays doit réfléchir à sa propre trajectoire de décarbonation et que chaque pays est souverain pour décider comment sortir progressivement des énergies fossiles. Le Brésil qui est encore dépendant, en tout cas a augmenté sa production de pétrole et de gaz. L'objectif c'est plus 36% dans les 10 ans qui viennent, mais avant, dit-il, de pouvoir le diminuer. La déforestation diminue aussi, on n'en est pas encore à reforester, mais c'est déjà un pas, on en parle juste après Gilberto Gil, Refloresta. Okay.
Manter em pé o que resta não basta, que alguém virá derrubar o que resta. O jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta. Manter em pé o que resta não basta, que a motosserra voraz faz a festa. O jeito é compreender que já basta e replantar a floresta. Milhões de espécies, plantas e animais, zumbidos, berros, latidos, tudo mais, uivos, murmúrios, lamentos ancestrais. Por que não deixamos nosso mundo em paz? Além do morro, o deserto se alastra por toda a terra, da serra aos confins. Um toco louco, um casco de canastra, onde enterramos sabins. Manter em pé o que resta não basta.
Gilberto Gil, la légende de la musique brésilienne et ancien ministre de la Culture qui chante ici le reboisement. Refloresta, un hymne à la reforestation et la préservation de la forêt amazonienne en l'occurrence. Garder en place ce qui reste ne suffit pas, presque tout l'or vert a disparu. Il est temps de reboiser, on n'en est pas encore là au Brésil, malgré la bonne volonté affichée du président Lula.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Avec la forêt amazonienne, le Brésil est en grande partie responsable de l'équilibre climatique mondial. C'est pourquoi arrêter la déforestation en Amazonie est aussi un moyen de réduire le réchauffement climatique. Je suis conscient de l'ampleur du défi de mettre fin à la déforestation d'ici 2030, mais c'est un défi que nous sommes déterminés à relever.
Arrêter la déforestation, dit Lula, mais reboiser, c'est encore autre chose, surtout quand les acteurs de ce qu'on appelle l'agro-business au Brésil font de la résistance. Bonjour Eve Anne Buller.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes enseignante-chercheuse en géographie à l'Université fédérale de Rio de Janeiro, spécialiste de l'agro-business. Vous travaillez en particulier sur les logiques d'action des très grandes entreprises agricoles sur les frontières agricoles ou sur les fronts pionniers du Cerrado. D'abord, cette déforestation qui ralentit, c'est ce qu'affirmait en mai un rapport d'un organisme de recherche indépendant MAP Biomasse qui établissait une sorte de cartographie de la déforestation. Où est-ce qu'on en est en quelques mots ?
Alors, on a reçu plutôt de bonnes nouvelles par rapport à ce qui précédait. Il faut quand même rappeler que le Brésil sort de 4 années que je qualifierais d'obscurantisme quand même politique. Et donc, le retour de Lula a quand même signé voilà, le retour aussi de politiques un peu plus volontaristes en termes environnementaux. Et donc, il s'est quand même attelé à essayer de ralentir la déforestation qui était repartie quand même très fort à la hausse. Alors, ça ne signifie pas qu'elle s'arrête, bien sûr, mais qu'elle avance moins vite. Mmh. Donc, on est pour la seconde année consécutive sur une pente décroissante et avec une bonne année supplémentaire cette année. Donc, décroissante par rapport aux 2 années précédentes, déjà. Et ensuite, dans tous les biomes, c'est-à-dire dans toutes les... Alors, les biomes, c'est des grandes formations, en fait, on va dire climato-végétales. Et donc, tous sont en recul cette année, ce qui est plutôt une bonne nouvelle et ce qui montre que les efforts déployés ont quand même produit des effets.
Et la déforestation recule, mais un peu moins dans le Cerrado, donc cet état que vous connaissez très bien, une région de savane. D'ailleurs, on en parle moins que l'Amazonie. Est-ce que c'est pour ça, d'après vous, que la déforestation ralentit moins qu'ailleurs ?
Alors, très certainement, parce que elle est moins médiatisée, elle est moins sous le feu des projecteurs internationaux, mais aussi nationaux. En fait, le Cerrado, c'est un biome. C'est considéré comme un biome. C'est le deuxième en superficie après l'Amazonie. Et donc, il est constitué de savanes plus ou moins arborées, suivant les lieux. Et effectivement, des chercheurs ont observé que quand on serre un peu la vis du côté amazonien, le déboisement se reporte en grande partie sur le Cerrado, qui a été aussi pensé dans les années 90 et 2000 comme le lieu du déploiement de l'agrobusiness modernisé. Voilà.
Cet agrobusiness dont vous allez nous parler, qui s'auto-définit comme ça d'ailleurs au Brésil, me semble-t-il. D'abord, comment expliquer ce moindre recours en général aux abatteuses et tronçonneuses ? Quelles mesures ont été prises depuis que Lula a été réélu après le mandat de Jair Bolsonaro ?
Déjà des annonces et un discours très différent. Donc je pense que voilà, ça montre quand même une disposition différente et juste ça, je pense que ça a des effets. Mais bien sûr, ça a été associé aussi à un ensemble de mesures. Déjà, redonner leur pouvoir à la police environnementale, aux institutions en charge de la surveillance de la déforestation. Donc voilà, réattribuer des pouvoirs à la police environnementale qui en avait été quand même assez
privé.
Voilà. Et puis aussi, alors des mesures, bien sûr, qu'on connaissait avant, de destruction de matériel, des amendes, une interdiction de vente des produits issus de parcelles illégalement déforestées. Mais aussi, et ça me paraît être intéressant, parce qu'en fait, tout ça, on a bien vu historiquement, ça ne suffit pas, un engagement des banques et du financement agricole dans ce contrôle, et une interdiction pour les banques, qui est de plus en plus surveillée aussi, de financer des acteurs qui auraient déforesté illégalement.
Donc, de premiers effets qui se font sentir, même si tout ça ne va sans doute jamais assez vite. Evan Buller, à quelle résistance tout cela doit-il faire face dans un pays dont on a déjà eu l'occasion de dire la place que s'y est faite ces acteurs de l'agrobusiness, que s'y sont faits les acteurs de l'agrobusiness, les acteurs de la production animale et végétale, pour le dire vite, qui disposent de représentants au Congrès national, donc la Chambre des députés et le Sénat. De quelle résistance se montre-t-il capable sur ces sujets-là?
Alors, une résistance, elles sont multiples. Hein. Ça passe par beaucoup de canaux. Alors, des canaux, justement, autour des organisations professionnelles, agricoles, mais pas seulement. Et je pense que ça a marqué aussi un grand tournant dans la capacité d'agir de ces acteurs-là. C'est-à-dire que les agriculteurs ou les grands propriétaires terriens qui, historiquement, ont un pouvoir dans toute l'Amérique latine, pas seulement au Brésil, se sont vus rejoindre par les acteurs de l'amont et de l'aval des filières, qui, eux, ont une habitude et une culture beaucoup plus ancienne et beaucoup plus, on va dire, affûtée, de la négociation et de la production de discours. Donc, il y a déjà toute une partie, en fait, de leur action qui est dans la façon de convaincre, en fait, la population, Les grands acteurs internationaux. Et par ailleurs, une action qui est clairement, plus clairement politique, qui est d'avoir des élus au Congrès, dans les deux chambres. Et ces élus... alors, il y a un système un peu particulier au Brésil, mais il y a ce qu'on appelle les bancades, qui sont des regroupements d'intérêts qui ne sont pas basés sur des partis politiques, mais sur des intérêts, sur des thèmes. Mmh. On en a sur l'environnement, on en a... Et donc, au Brésil, on a les fameuses bancadas qui représentent, en fait, le pouvoir conservateur, qui est le BBB, donc le bœuf, la balle et la Bible. Ce sont trois bancadas différentes. Et donc, celle du bœuf représente le pouvoir agricole.
Et qui a déjà obtenu quelques victoires, récemment, la loi sur les licences environnementales, par exemple, qui instaure un système d'autorisation préalable pour les projets qui ont des effets sur l'environnement, donc exploitation agricole, infrastructure routière, entre autres. Ce système est en train d'être assoupli sous l'effet de ce lobbying de ces représentants-là, au nom de la débureaucratisation. Ça rappelle quelque chose. Peut-être pour conclure, Evan Buller, ces acteurs sont en train de mettre en place une sorte de stratégie à l'approche de la COP qui se tiendra à Belém en novembre, ou en tout cas une sorte de contre-sommet. Vous nous avez envoyé l'affiche d'une COP agro qui se tiendra en octobre, donc un mois plus tôt. On voit la planète Terre et protéger l'Amazonie, c'est écrit en gros avec un numéro de téléphone. Alors je ne sais pas qui on appelle pour protéger l'Amazonie, mais qu'est-ce que c'est que ce contre-sommet ?
Alors c'est assez obscur, peu d'informations filtrent en fait, mais on y voit la tentative d'une organisation qui est très très loin d'être majoritaire en fait, qui s'appelle la PRIA, qui représente les producteurs indépendants de l'Amazonie, d'organiser une autre COP juste avant la COP officielle. Et on peut voir ça, alors il y a différentes interprétations, hein, mais au départ c'était annoncé comme un grand événement qui aurait une représentation aussi forte que la COP officielle. Et puis, on s'aperçoit quand même, ça s'étiole quand même beaucoup. Et notamment, les grands acteurs qui ont une place dans les négociations officielles, on sent qu'ils rechignent à s'y associer officiellement.
Parce qu'il y aura des grands syndicats agricoles invités à la COP 30 de Belém, brésilien.
Voilà, en tout cas, ils participent à la construction de la position brésilienne. Mmh. Et notamment... autour de l'agro, puisque, alors pour revenir à votre point de départ quand même, le secteur agricole est responsable de 97% des déforestations, de la déforestation au Brésil. Alors, déforestation au sens large, ça couvre aussi le Cerrado. Oui. Et donc, souhaite passer et s'y emploie activement du statut de problème à celui de solution.
Voilà, l'agro-business ferait partie de la solution, mais pas du problème. Ils auront très certainement une tribune aussi, certains d'entre eux, à Belém, à la COP 30. En quelques mots, Lola Vallejon, à chaque fois, dans toutes les COP, ces acteurs, que ce soit de l'agro-business, du pétrole et tout, sont là et ralentissent un peu les choses.
Je pense que c'est, vous l'avez très bien dit, qui fait partie du problème et qui fait partie de la solution. Ce sera important de regarder les choses, non seulement en termes d'émissions, mais aussi en termes de pollution, en termes de droits humains. Je pense que c'est ça qui sera important de garder à l'esprit à cette COP.
Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir été avec nous. Evan Buller, je renvoie aussi vers l'article que vous avez fait paraître il y a quelques temps dans Études rurales, la revanche de l'agrobusiness brésilien, usage et paradoxe de la régulation environnementale par le numérique, coécrit avec Pierre Gautreau et Walter Lucio de Oliveira. Merci beaucoup Lola Vallejo, directrice de l'équipe diplomatie à la Fondation européenne pour le climat. Et merci à Ami Dahan, mathématicienne, directrice de recherche émérite au CNRS. Gouverner le climat, 20 ans de négociations internationales. Cet ouvrage coécrit avec Stéphane Écoute est paru aux presses de Sciences Po. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et une revue de presse en lien d'ailleurs, sans le faire exprès, avec notre... De toute façon, le climat recoupe toute l'actualité, quoi qu'il en soit. Et c'est au Nigeria, Catherine, que les autorités sont engagées dans une course contre la montre pour retrouver des victimes d'inondations.
Les pires depuis 60 ans dans la région de Mokwa, souligne la BBC. Plus de 200 morts, selon un bilan encore provisoire, dans cette ville du centre du Nigeria. Mais le bilan risque de doubler, peut-être tripler, voire bien plus, prévient le New York Times, car la ville commerçante de Mokwa et ses 400 000 habitants se trouve à l'intersection de trois axes routiers majeurs au Nigeria. Elle attire donc des habitants, notamment des villages environnants. Au fur et à mesure que les eaux se retirent, ce sont surtout des cadavres qui sont sont retrouvés par les secouristes équipés de bottes, tandis que les habitants, le plus souvent en tongs, retournent la terre rouge éventrée avec ce qui leur reste comme des pioches, montre le quotidien nigérian The Punch, ainsi que CNN, Sky News ou encore Al Jazeera. 80 à 100 enfants qui dormaient dans une école coranique ont tous été emportés par les flots, témoignent des habitants de Mokwa dans les colonnes du quotidien nigérian The Nation et sur la BBC. Le média britannique a lui rencontré Adamu Youssouf, un homme de 36 ans qui a vu impuissant son épouse et leur bébé être également emportés dans les inondations de jeudi matin. Après une nuit de pluie torrentielle, Adamu dit avoir survécu parce qu'il sait nager. Aujourd'hui, des vêtements éparpillés, des matelas trempés et des tôles de toiture écrasées sont les derniers vestiges des centaines de maisons détruites à Mokwa, décrit la BBC, et une odeur pestilentielle règne dans la ville. La preuve que des cadavres se trouvent sous l'épaisse boue. Crainte d'épidémie, de choléra notamment, alerte The Punch. Pas assez de nourriture pour les survivants alors que les récoltes ont été emportées, ajoute le quotidien nigérian The Nation. Et des questions demeurent sur l'éventuelle rupture d'un barrage qui aurait aggravé ces inondations, explique la BBC et Al Jazeera. Mais une chose est sûre pour The Punch, la BBC et Vatican News. Le changement climatique accélère la fréquence et la gravité des inondations qui se produisent pendant la saison des pluies d'avril à octobre au Nigeria, sans compter des problèmes liés aux constructions non réglementées, poursuit Al Jazeera, et la mauvaise qualité aussi des infrastructures de drainage dans le pays.
Aux États-Unis, Catherine Dutu, des associations veulent poursuivre le Texas pour non-respect de la Constitution.
Après que les élus républicains ont décidé la semaine dernière d'afficher les 10 commandements dans les salles de classe dès la rentrée prochaine, précise le quotidien The Austin American Statesman, et ce, dans toutes les écoles publiques du Texas, qui compte 6 millions d'élèves, de la maternelle à l'équivalent de la terminale. Inacceptable pour des associations comme ACLU et les Américains Unis pour la séparation de l'Église et de l'État, qui vont donc lancer des poursuites judiciaires, annonce le quotidien The Dallas Morning News, ainsi que The Hill et les chaînes télévisées Fox 7 Austin et KXAN. Pas question donc pour ces groupes de voir transformer les écoles publiques en écoles du dimanche, rapporte le Dallas Morning News. Afficher les 10 commandements, c'est pourtant une question de bon sens moral, selon Sean Carney, un lobbyiste anti-avortement, interrogé sur Fox Digital.
This is great, and it certainly goes into the theme where, you know, after the chaos of 2020.
C'est formidable et ça s'inscrit dans un combat commencé après le chaos de 2020. Nous avons réévalué certaines choses autorisées dans notre culture. Vous avez assisté à l'annulation de l'arrêt Roe v. Wade et la garantie fédérale du droit à l'avortement, s'enthousiasme Sean Carney. Aujourd'hui, nous réévaluons la prière à l'école et nous avons maintenant les 10 commandements. C'est une bonne chose. Ce lobbyiste anti-avortement, Sean Carney, espère que cette loi texane servira de modèle pour d'autres États. L'Arkansas voisin a d'ailleurs adopté son propre projet de loi sur les 10 commandements, ajoute The Hill, mais une loi similaire a été bloquée en Louisiane par un tribunal fédéral. Alors nullement intimidé par des poursuites judiciaires, note le Dallas Morning News, le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, promet sur les réseaux sociaux « Nous gagnerons également cette bataille ». Ce timing coïncide avec les récentes décisions de la Cour suprême qui ont permis aux fonds publics du Texas d'être versés à des entités religieuses, relève le magazine Newsweek, et le Dallas Morning News dénonce le deux poids, deux mesures des républicains texans. Prêts à braver la Constitution et son premier amendement qui interdit au gouvernement de légiférer pour établir et favoriser une religion, mais refus catégorique de durcir l'obtention d'une arme à feu, car là, le deuxième amendement est sacré pour les républicains, explique le Dallas Morning News. De son côté, un élu démocrate d'Austin, James Talarico, ancien enseignant, chrétien lui-même, mais fervent critique du nationalisme chrétien, rappelle The Austin American Statesman, s'inquiète de l'adoption d'un autre projet de loi qui permettra à des parents, à des conseils d'éducation d'interdire plus facilement des livres des bibliothèques scolaires au Texas s'ils se sentent heurtés dans leurs valeurs. Un cauchemar réglementaire pourrait bien commencer en septembre prochain, alerte le Dallas Observer et The Texas Tribune. Roméo et Juliette de Shakespeare et son histoire d'amour hors mariage, note le démocrate James Talarico, pourrait ainsi disparaître des écoles publiques du Texas, dans un État qui a déjà vu 540 livres être interdits rien que sur la dernière année scolaire, rappelle le Texas Tribune, avec des histoires et des personnages LGBT+, des Noirs particulièrement visés.
Vous aviez consacré un grand reportage à la question, Catherine Dutu. La censure des livres Nouveau Front dans les guerres culturelles aux États-Unis à retrouver sur le site de France Culture.